Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Même dans des moments de faiblesse comme la maladie, nous pouvons nous donner dans la foi des signes lumineux d'espérance. Je m'unis aux nombreux frères et sœurs malades, fragiles en ces moments comme moi. C'est ce qu'a écrit le pape François dans son texte de l'Angélus diffusé dimanche. François, qui poursuit ses thérapies à la polyclinique Gemelli avec une amélioration progressive. Dans son texte, le Saint-Père a aussi invité à continuer à prier pour la paix, en particulier dans les pays blessés par la guerre, dont le Soudan, la République démocratique du Congo. Vous aurez les détails dans l'actualité de l'Église, avant la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Une cinquantaine de migrants en détresse secourus en fin de semaine par l'armée du Niger, près de la frontière libyenne. Ethiopian Airlines signe un partenariat avec la Banque africaine de développement pour le développement d'un nouvel aéroport qui devra porter la capacité annuelle des transports des passagers à plus de 60 millions d'ici 2040. Nous en parlerons dans l'actualité sociale et politique africaine qui nous conduira aussi en République démocratique du Congo. Au cours de cette édition, vous suivrez également la suite de la présentation du rapport de synthèse de la première session du synode sur la synodalité. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Le pape François est toujours hospitalisé à la polyclinique Gemelli. Son état clinique reste stable, ce qui confirme les progrès observés ces derniers jours. Le Saint-Père poursuit les thérapies, des thérapies qui montrent une amélioration progressive. Dans son texte de l'Angélus diffusé dimanche, le pape a principalement commenté l'évangile du deuxième dimanche de Carême, centré sur la transfiguration de Jésus. Dans cette scène où Jésus rayonne des lumières, il montre aux disciples ce qui se cache derrière les gestes qu'il accomplit au milieu d'eux, la lumière de son amour infini. En partageant ses pensées alors que je traverse un temps d'épreuve, a écrit François, je m'unis aux nombreux frères et sœurs malades, fragiles en ces moments comme moi. Même dans des moments de faiblesse, nous pouvons nous donner dans la foi des signes lumineux d'espérance, a écrit le pape. Le Saint-Père qui a ensuite remercié Dieu qui ne nous abandonne pas et place à nos côtés des personnes qui reflètent un rayon de son amour. Il a aussi remercié tous ceux qui prient pour lui et ceux qui l'assistent avec tant de dévouement. Et les textes du pape François s'est conclu avec une invitation à continuer à prier pour la paix, en particulier dans des pays blessés par la guerre, dont le Soudan et la République démocratique du Congo. Et prions pour l'Église, appelée à traduire dans des choix concrets les discernements opérés lors de la récente assemblée synodale, peut-on encore lire dans les textes du pape François. Et chaque soir à 19h30, la prière du rosaire pour la santé du pape a lieu sur la place Saint-Pierre. Suivons à présent la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Parole à Fabrice Baguindekere.
Oui, Stanislas. Dans un communiqué rendu public jeudi 13 mars, les églises catholiques et protestantes de la RDC saluent le début des négociations de paix directes entre Kinshasa et les M23 alors que les combats se poursuivent à l'est du pays. Les deux églises encouragent les acteurs concernés à saisir la main tendue du président João Lourenço, à s'investir sincèrement dans ce processus de négociation de paix dans un esprit constructif. Ils félicitent par la même occasion le président de la République démocratique du Congo pour son esprit de dépassement, priorisant les voies et moyens pacifiques de règlement de ce conflit et encourage les chefs d'État de la SADC et de l'EAC à soutenir pleinement le processus de dialogue direct initié par le président Lourenço. Jeudi, à l'occasion du 12e anniversaire du pontificat du pape François, le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou au Burkina Faso, avait livré un témoignage sur le pape argentin, un pape manifestant sa sollicitude apostolique à tous, malgré un monde rempli de contradictions et de complexités, selon le cardinal, l'Afrique notamment.
À mon humble avis, en 12 ans de pontificat, notre pape François a pu manifester sa sollicitude apostolique à tous, chrétiens et non-chrétiens, par son magistère, ses audiences, ses voyages dans tous les continents. L'Afrique a pu bénéficier de plusieurs voyages apostoliques, des messages d'encouragement. Au Burkina Faso, par exemple, pendant qu'il est à l'hôpital aux soins. Son secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, a présidé à Ouagadougou les célébrations conclusives des 125 ans d'évangélisation. Une présence marquante, bénéfique. Nous sommes bien sûr dans un monde complexe, plein de contradictions, mais à mon sens, nous devons rendre grâce au Seigneur pour le pontificat de notre pape François.
Dans son message de carême 2025 adressé aux fidèles de son archidiocèse, Mgr Edmond Djitangar, archevêque de N'Djamena au Tchad, a relevé plusieurs mots persistants dans l'église famille des dieux de cette circonscription ecclésiastique, notamment le refus de certains fidèles de célébrer leur mariage sacramentel, la fréquentation des marabouts, les mauvais traitements que subissent les veufs, veuves et les orphelins en cas de décès du conjoint. Rappelant que carême est un temps de combat spirituel, personnel et communautaire, le prélat a invité ses fidèles à combattre ces maux qui les fragilisent et les empêchent de s'épanouir comme chrétiens dans leur vie familiale ou en église famille des dieux. La conférence épiscopale du Bénin organisera du 89 août prochain un pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. L'initiative menée par la commission épiscopale pour les pèlerinages s'inscrit dans le cadre de l'année jubilaire. Il s'agit de sortir de chez soi, sortir pour aller à la rencontre des dieux et de nos frères et sœurs en humanité, a déclaré Mgr Bernard de Clairvaux-Toa, évêque de Djougou et président de la commission épiscopale béninoise pour les pèlerinages. Aussi, l'église du Bénin a-t-elle inscrit ce pèlerinage vers Yamoussoukro pour faire découvrir aux fidèles béninois cette majestueuse basilique de la sous-région, encore nombreux à ne l'avoir pas visitée. L'église est mater et magister. Elle accueille et conseille toute personne qui veuille se mettre au service de la République. C'est le message de Mgr Mathieu Madega, évêque de Mouya au Gabon, alors que la commission chargée des élections du 12 avril prochain a déjà communiqué la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle, parmi lesquels le général Brice Oligui Nguema, président de la transition en cours depuis 2023.
Comme vous le savez, l'Église veut le développement de l'homme et de tout l'homme, et bien sûr de tout homme. L'Église est Mater et magistra, elle est mère et maîtresse, donc elle regarde, elle conseille tout le monde, appelle à l'unité, à la sagesse, à l'humilité. Donc l'Église accueille tous ses enfants qui se présentent aux élections et elle encourage aussi tout homme et toute femme qui est capable de se proposer à prendre les rênes de la République, bien sûr, pourvu que la personne soit digne de confiance, que la personne veuille se mettre au service de la République avec amour, abnégation, détermination, discernement, sagesse et même perspicacité, pourquoi pas.
Merci Fabrice. Actualité sous salle politique en Afrique. L'armée nigérienne a annoncé dimanche avoir secouru une cinquantaine de migrants en détresse en fin de semaine dans les nord désertiques du Niger, près de la frontière libyenne. Les 50 migrants, dont 20 femmes et 12 enfants, étaient en détresse sous des conditions climatiques extrêmes lorsque les véhicules qui les transportaient est tombé en panne vendredi, a précisé l'armée dans son bulletin des opérations. C'est un détachement de la brigade d'intervention rapide des militaires qui leur a porté secours dans la zone nigérienne de Djado, à environ 200 km de la frontière libyenne, a-t-elle indiqué. Les migrants ont reçu les soins d'urgence après leur évacuation vers les puits de l'Espoir, l'un des rares points d'eau dans cette région où les voyageurs et des milliers de migrants font souvent escale dans leur périlleuse traversée du désert. En République démocratique du Congo, le groupe armé M23 a accusé dimanche le gouvernement congolais de vouloir torpiller des pourparlers directs prévus mardi en Angola. Dans un tweet, Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo, accuse le gouvernement de la RDC d'utiliser des avions de chasse et des drones pour bombarder ces derniers jours des zones densément peuplées. Par ailleurs, dans son tweet, M. Kanyuka accuse réception de l'invitation de la médiation angolaise au dialogue direct prévu mardi à Luanda avec les gouvernements de la RDC. Le président angolais João Lourenço, médiateur du conflit, a appelé samedi à un cessez-le-feu dès dimanche à 0h juste, un appel auquel aucun belligérant n'a répondu. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a signé un partenariat avec la Banque africaine de développement BAD pour le développement d'un aéroport à près de 8 milliards de dollars près de la capitale éthiopienne Addis Abeba, décrit comme le plus grand d'Afrique. C'est ce qu'ont déclaré les autorités éthiopiennes. Ethiopian Airlines a signé une lettre d'intention avec la BAD établissant un partenariat pour les projets de développement du nouvel aéroport international de Bishoftu, a déclaré Ahmed Shide, ministre des Finances éthiopien, dans un communiqué diffusé samedi. Le nouvel aéroport, dont le coût est estimé à 7,8 milliards de dollars, portera la capacité annuelle des transports des passagers de 17 millions à plus de 60 millions d'ici 2040, a ajouté le ministre éthiopien. Le père jésuite Martin Bahati poursuit la présentation du rapport de synthèse de la première session du synode sur la synodalité, rapport publié le 28 octobre 2023 à l'issue des travaux.
Chères sœurs et frères, nous continuons à lire le rapport de synthèse de la première session de la 16e Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques tenue à Rome du 4 au 29 octobre 2023. Nous explorons la troisième et dernière partie du rapport qui s'intitule « Tisser des liens, construire une communauté ». Nous parcourons aujourd'hui les 5 points de convergence du sous-point nommé « Les missionnaires dans le monde numérique ». Le premier point de convergence concerne la culture numérique qui constitue un changement fondamental dans la manière dont nous concevons la réalité et dont nous sommes en relation avec nous-mêmes, entre nous, avec notre environnement et même avec Dieu. Selon les participants au synode, le monde numérique modifie nos processus d'apprentissage, notre perception du temps, de l'espace, du corps, des relations interpersonnelles et toute notre façon de penser. Dans la même perspective, le deuxième point de convergence note que la culture numérique n'est pas tant un lieu spécifique de la mission qu'une dimension capitale du témoignage de l'Église dans la culture contemporaine. La culture numérique revêt une importance toute particulière dans une église synodale. Le troisième point affirme ceci. Les missionnaires sont toujours partis avec le Christ vers de nouvelles contrées, précédés et poussés par l'action de l'Esprit-Saint. Aujourd'hui, c'est à notre tour de rejoindre la culture contemporaine dans tous les lieux où les gens cherchent du sens et de l'amour, y compris leur téléphone portable et leur tablette. Le quatrième point montre que nous ne pouvons pas évangéliser la culture numérique sans d'abord l'avoir comprise. Les jeunes, et parmi eux les séminaristes et les jeunes prêtres et les jeunes consacrés qui annoncent souvent une expérience directe et profonde, sont les mieux placés pour mener à bien la mission de l'Église dans le monde numérique, ainsi que pour accompagner le reste de la communauté, y compris les pasteurs, à se familiariser davantage avec ces dynamiques. Enfin, le cinquième point de convergence indique que, dans le cadre du processus synodal, les initiatives du synode numérique montrent le potentiel du monde numérique dans une perspective missionnaire. La créativité, la générosité de ceux qui s'y engagent et la nécessité de leur offrir une formation, un accompagnement et l'opportunité de se confronter entre pairs et la collaboration.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique des Radios Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.
Mmh.